Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, coup de projecteur sur la journée mondiale de l'aide humanitaire et sur les travailleurs et personnels des agences de l'ONU et des organisations non gouvernementales qui œuvrent sans relâche sur le terrain chaque jour pour alléger les souffrances des populations. Le Congolais Jacques Kaora est aujourd'hui devenu un spécialiste de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées pour IME, une ONG qu'il préside et qui travaille dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Ayant lui aussi été une personne déplacée, il a connu la faim, le manque de médicaments et rêve d'un Congo-Kinshasa pacifié dans lequel les enfants pourraient aller à l'école et les adultes cultiver leurs champs. Jacques Kaora, qui au micro de Florence Westgaard, revient sur son parcours. Témoignage.
IME, c'est un nom que nous tirons de la mythologie norvégienne. Selon cette mythologie, IME, c'est une personne dont le corps serait transformé en terre, le sang se serait transformé en eau, mais aussi le poids se serait transformé en végétation. Et donc, ces trois aspects, justement, dictent nos domaines d'intervention. C'est pour cela qu'on a choisi ce nom de IME. Alors, pour bien parler d'un aspect qui concerne la discussion de ces jours, il s'agit de la question de l'eau, hygiène et assainissement, dans lesquelles IME est impliqué depuis maintenant plus d'une décennie. Donc, IME intervient pratiquement dans les domaines de l'eau, hygiène et assainissement et aborde trois aspects qui constituent le paquet même du domaine de l'eau, hygiène et assainissement. Dans un premier temps, le IME travaille sur la construction des infrastructures sanitaires, mais aussi la réhabilitation en cas de besoin. Quand on parle de la construction, ici nous sous-entendons la construction de latrines, nous construisons également des douches, mais aussi nous mettons sur pied des trous à ordures où les déplacés peuvent mettre des restes de la cuisine. Donc ça, c'est le premier aspect que nous abordons avec les déplacés dans différents camps où nous intervenons dans la ville de Goma, mais aussi au niveau des territoires environnant la ville de Goma. Nous nous occupons également de l'aménagement des sources, c'est-à-dire nous essayons un peu de voir autour des camps là où il y a de l'eau et nous canalisons cette eau vers les déplacés pour qu'ils ne puissent pas effectuer de longues distances à la recherche de l'eau. Mais aussi, nous faisons la maintenance des systèmes existants. Dans certains cas, nous avons déjà mis des systèmes d'eau et notre travail, c'est de pouvoir continuer à accompagner les communautés ou les déplacés dans la maintenance de ces systèmes d'eau qui existent dans leurs sites de déplacement. Et le troisième volet sur lequel nous travaillons dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement, c'est justement cet assainissement où nous apprenons aux déplacés à observer des règles d'hygiène à travers des sensibilisations, à travers des différentes réunions, des focus groups, à travers des visites à domicile. Voilà, de manière générale, ce que nous faisons avec ces déplacés.
D'accord. Et donc, IME donc est plus spécialisé avec les déplacés ou vous travaillez aussi avec les communautés, point de vue sanitaire. Donc, quel est exactement le travail?
Pour ce qui concerne les urgences, il n'y a pas d'urgence au Congo sans parler des communautés d'accueil. Et donc, lorsque nous parlons de déplacés, le plus souvent, les camps s'implante juste à côté des villages. Et donc, au même moment que nous donnons de l'eau aux déplacés, nous en donnons aussi, disons, aux communautés d'accueil. C'est pour éviter justement qu'il n'y ait pas de conflit entre la population d'accueil et les déplacés. Alors, nous essayons un peu de donner les mêmes avantages, mais bien entendu, on donne plus d'avantages aux déplacés parce qu'ils ne sont pas dans leur milieu d'origine. Et donc, on essaie un peu d'avoir un regard plus particulier à ce niveau. Mais d'une manière générale, nous essayons un peu d'intégrer les deux communautés, c'est-à-dire les déplacés, mais aussi les communautés d'accueil.
Donc, bien sûr, vous parlez de déplacés. Bien sûr, nous sommes en RDC. Donc, quelle est vraiment la situation là-bas?
Pour le moment, c'est les chauds et les froids. C'est-à-dire que la situation change à tout moment dans cette partie. Au moment où nous vous parlons, il y a des affrontements qui s'effectuent au niveau du territoire de Walikale. Il y a de l'insécurité qui bat son plein au niveau de Masisi. Il y a autant de problèmes également au niveau de tous les territoires presque. Et lorsqu'il y a tous ces problèmes, cela oblige des gens à pouvoir se déplacer et aller vers des zones où ils pensent que c'est plus ou moins ou relativement sécur. Et donc, au moment où nous vous parlons, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce mouvement de bottes qui sont entendus passer par là, et cela oblige les gens à pouvoir se déplacer. Donc, c'est un phénomène qui ne finit pas jusqu'à ces jours.
Et donc, bien sûr, nous faisons cette interview dans le cadre de la journée humanitaire. Donc, en tant qu'humanitaire, quels sont les défis que vous rencontrez le plus en RDC?
Les défis auxquels nous faisons face pour le moment, c'est d'abord la durée de séjour des déplacés dans les camps. Comme vous le savez, en principe, les exigences durent au moins 6 mois. Et après les 6 mois, les gens doivent regagner leur village. Mais en RDC, vous allez trouver qu'il y a des déplacés qui sont là depuis des décennies maintenant et qui continuent justement à rester des camps où ils bougent d'un camp à un autre. Et cela fait que ceux-là qui devraient financer les différentes activités sont pratiquement fatigués. Et ils n'ont plus aussi des ressources à continuer à donner. Après 10 ans, ce n'est pas facile de continuer à donner. Vous savez que les exigences également coûtent extrêmement cher. Et donc, cela apparaît comme un premier défi. Le deuxième défi, c'est un défi sécuritaire. Il arrive des moments où on n'a pas accès aux déplacés parce qu'il y a ce problème des groupes armés qui sont passés par là. Il y a de l'insécurité, des fois des véhicules qui sont braqués. Et donc, tout cela, ça pose un problème. L'autre obstacle auquel nous faisons face, c'est les infrastructures. Il n'est pas facile d'enlever de l'assistance de la ville de Goma, d'où ça doit provenir, jusqu'aux déplacés, parce que des fois, il n'y a pas de route, ou s'il y a des routes, les routes sont coupées, ou il faut faire beaucoup de temps sur la route, et tout cela, ça pose énormément de problèmes. Donc, les défis sont énormes, et jusque-là, lorsqu'on trouve tout ce qu'il y a comme problème, on a difficile à y répondre et cela constitue un problème sérieux. Et des fois même, les déplacés pensent qu'on ne veut pas faire du mieux pour améliorer leur situation. Mais ces réalités aussi constituent pratiquement un frein à ce qu'on peut faire comme intervention.
Écoutez-moi ça. Est une organisation donc en RDC. Votre organisation comprend combien de personnes exactement?
Pour le moment, l'organisation compte pratiquement près de 15 personnes qui travaillent sur le terrain, mais ces personnes travaillent également avec des membres des communautés. Donc nous avons mis des mécanismes parce qu'on ne peut pas tout faire nous seuls. Nous travaillons avec des membres des communautés, c'est-à-dire là où nous intervenons, nous faisons participer aussi les déplacés eux-mêmes dans leurs interventions, par exemple dans la construction des infrastructures, dans l'entretien des infrastructures, dans l'aménagement des sources, dans la maintenance des sources. Donc on essaie un peu de les utiliser et nous les structurons et nous les accompagnons dans ce sens-là. Donc on a à peu près 15 staff qui travaillent sur le terrain. Mais bien sûr, il y a aussi des équipes d'appui, c'est-à-dire au niveau de l'administration. Et là aussi, ça peut aller autour de 17 ou 18.
Et est-ce que vous pouvez nous dire une histoire ou un projet qui a été vraiment un succès pour votre organisation, qui a été vraiment formidable d'avoir accompli cette chose-là?
Oui, nous venons de réaliser un très bon projet que nous-mêmes nous avons trouvé très satisfaisant. C'est le système de collecte d'eau de pluie dans les territoires de Nyiragongo. Après pratiquement la guerre, il y a des déplacés qui ont commencé à regagner leur village dans les territoires de Nyiragongo. Le territoire de Nyiragongo, c'est le territoire sur lequel sont restés les M23, les rebelles de M23 pendant presque toute une année. Et là, ils ont pratiquement endommagé toutes les infrastructures qui existaient sur place. Et donc, lorsque les déplacés sont rentrés dans leur village d'origine, ils n'avaient pas accès à l'eau potable. Et comme ce milieu, il n'y a pas de source, en partenariat avec Mercy Corps, nous avons mis sur pied les systèmes de collecte d'eau de pluie. Et nous venons de construire pratiquement 921 systèmes de collecte d'eau de pluie en faveur des ménages qui sont rentrés avec, bien sûr, des critères de vulnérabilité qu'il fallait voir. Nous venons également de construire un grand système de collecte d'eau de pluie au niveau communautaire dans un endroit qu'on appelle Burambo. Et ça, c'est vraiment un projet qui a été un grand succès dans la mesure où ça répondit pratiquement aux attentes de la population, mais aussi une population qui a tout perdu et qui devrait s'installer. Et donc, c'était pratiquement très apprécié par les déplacés. Et donc, ça répondit pratiquement aux besoins tels qu'ils l'attendaient.
vous personnellement, de faire partie de cette organisation, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement en tant qu'humanitaire?
Je pense que nous avons choisi les meilleurs domaines humanitaires, les domaines de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et donc, nous sommes très contents parce que le plus souvent, on a constaté que presque tous les humanitaires, à un certain moment, ils sont au bout des financements. Mais nous sommes toujours présents parce que nous continuons à donner de l'eau. Et les déplacés ont toujours besoin de l'eau. Ils peuvent manquer à manger, ils peuvent manquer les habits ou tout ce que tu as besoin, mais l'eau reste un besoin crucial et donc il faut la donner au quotidien. Et donc, nous avons pensé que c'est vraiment un domaine nécessaire que nous avons choisi. Et nous sommes toujours à côté des déplacés chaque fois qu'il y a ce besoin d'eau et nous sommes toujours présents pour la donner. Et ce qui est très positif, c'est que nous sommes très contents avec des partenaires parce qu'ils nous soutiennent. Nous avons par exemple l'UNICEF, nous avons Mercy Corps et d'autres humanitaires qui nous appuient. Lorsque nous sommes en rupture de ressources, ils essaient un peu de voir comment apporter une réponse à cela. Et ce que j'ai appris de tout ça, dans l'humanitaire, tout le monde travaille dans une coordination. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas, je peux recourir à un autre partenaire et il va le faire. Ce que je ne suis pas à mesure, l'autre n'est pas à mesure de faire, je le fais. Et donc, dans cette communion, dans la façon de travailler, c'est quelque chose qui nous a appris comment les humanitaires doivent collaborer. On ne se fait pas de concurrence dans l'humanitaire. Et ça, c'est ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé dans ce domaine.
Et donc, ça fait 10 ans que vous travaillez pour cette organisation?
Oui, ça fait pratiquement 10 ans que je travaille pour cette organisation. Et depuis, pendant tous ces 10 ans, nous n'avons fait qu'apporter de la réponse en eau potable aux déplacés, mais aussi construire les infrastructures et aussi intervenir dans la promotion de l'hygiène.
Et donc, Jacques Kaora, vous travaillez bien sûr avec l'UNICEF et d'autres organisations pour vous aider, pour mettre les infrastructures. Sur les camps, comment vous aménagez justement ces infrastructures? Comment ça se passe exactement?
Le système de camps, il y a d'abord le HCR qui est le responsable pratiquement de tous les camps. Et le HCR maintenant coordonne les activités avec d'autres intervenants. Avant de commencer un camp, on essaie un peu de l'aménager. On fait les traçages, on sait où est-ce qu'on va mettre les infrastructures sanitaires, où est-ce qu'on va mettre les latrines, où est-ce qu'on va mettre les infrastructures sanitaires, où est-ce qu'on va mettre de l'eau, où est-ce qu'on va construire les huttes pour les déplacer. Donc tout cela, une fois aménagé, maintenant on essaie un peu de revenir maintenant aux différents partenaires pour que chacun puisse venir directement voir comment est-ce qu'il peut mettre ses installations. Et c'est ce que nous faisons à notre niveau. Donc ici, le système d'intervention dans les camps est organisé selon ce qu'on appelle les clusters. Les clusters, c'est une façon de pouvoir travailler. Tous les intervenants qui sont dans un domaine doivent se mettre ensemble et voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble sur le terrain. Et donc, c'est comme ça qu'on a, par exemple, les clusters WASH, on a les clusters protection, on a les clusters éducation et tant d'autres clusters. Pour ce qui concerne les domaines de l'eau, nous également, lorsque nous devons intervenir, c'est-à-dire il y a le cluster WASH, ou l'eau, hygiène et assainissement, qui est dirigé par UNICEF. Et UNICEF, en partenariat avec UNICEF, UNICEF essaie un peu de mobiliser des fonds pour l'organisation, surtout nous, comme nous sommes une organisation nationale, essaie un peu de mobiliser des fonds pour nous, pour que nous puissions répondre favorablement, parce que nous connaissons les réalités en tant qu'organisation congolaise, nous connaissons les réalités du terrain, nous connaissons aussi autant de coutumes et traditions, et nous essayons un peu de tenir compte de cela. Et donc, c'est pour ça que ces organisations le plus souvent recourent aux organisations nationales pour voir comment est-ce qu'ils peuvent intervenir, parce qu'ils comprennent très bien les réalités de se déplacer, ils savent comment est-ce que se déplacer se comporte, quels sont les grands problèmes et comment aussi il faut y faire face. Et maintenant, régulièrement, chaque mois, les clusters doivent inviter les différents intervenants pour expliquer comment est-ce qu'ils sont en train de travailler, quels sont les défis auxquels ils font face et comment est-ce qu'ils sont en train de répondre à cela. Et donc, tout cela est partagé chaque mois et chaque organisation qui intervient dans tel ou tel autre domaine sait qui fait quoi, où et comment est-ce qu'il le fait. Et lorsqu'il y a des gaps, cela est annoncé au cours des réunions pareilles. Et séance tenante, on essaie un peu de chercher des solutions. Voilà un peu comment les choses sont coordonnées et ça nous aide beaucoup plus aussi à se rapprocher des autres, mais aussi à répondre à taille utile, mais aussi lorsqu'on n'a pas de ressources, on sait facilement le rechercher dans un cadre comme celui-là.
« Voilà, et c'est avec Jacques Caora de l'ONG IME que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine présenté cette semaine par Jérôme Longuet et préparé par Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, les podcasts, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.